France Culture.
Divers aspects de la pensée contemporaine, aujourd'hui la Grande Loge de France. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cette première émission de 2025 et permettez-moi de vous souhaiter à toutes et à tous une année pleine de joie et d'espérance. D'espérance, il en sera sans doute question dans notre émission de ce jour qui sera consacrée au thème de l'humain, du vivant et de la planète. Un thème qui fait l'objet d'une question à l'étude des loges au sein de la Grande Loge de France. Tous les frères de notre obédience qui le souhaitent sont amenés à réfléchir sur ce sujet dans les prochains mois et leurs contributions feront l'objet d'une synthèse et d'une publication, comme ce fut le cas récemment sur les thèmes consacrés à la fin de vie ou à l'intelligence artificielle. L'humain, le vivant, la planète, dans un monde en quête de sens, il est sans doute urgent de réinventer notre manière d'habiter la Terre, non seulement par nos actions, mais aussi à travers une conscience qui unit l'esprit, le cœur et la vie qui nous entoure. Cette démarche ne se limite pas à préserver ou à protéger, elle invite à vivre en harmonie avec le vivant, en cultivant une connexion plus profonde à soi, à l'autre et à la Terre. Pour nous en parler, nous recevons aujourd'hui un spécialiste, notamment des questions de transition écologique, David Giles. Cher David Giles, bonjour.
Bonjour et merci de votre invitation.
David Giles, vous êtes normalien, haut fonctionnaire et essayiste. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages et notamment de ce dernier livre consacré à la transformation écologique, coécrit avec Xavier Desjardins, La Révolution Obligée, publié chez Alary Éditions. Et vous êtes aussi le président des rencontres philosophiques Michel Serres à Agen. Alors j'aimerais débuter notre échange par quelques mots de Michel Serres dans son fameux essai « Le contrat naturel ». Je le cite « Il y va de la Terre dans sa totalité comme des hommes dans leur ensemble. L'histoire globale entre dans la nature globale entre dans l'histoire. Voilà de l'inédit en philosophie ». C'était il y a plus de 30 ans. Michel Serres évoquait ici les conséquences engendrées par une nouvelle relation entre l'humanité et la planète Terre. Alors sommes-nous entrés dans cette nouvelle ère? Certains évoquent celle de l'anthropocène, David Giles.
Il y aurait tellement à dire sur l'extrait que vous venez de lire. Le contrat naturel, c'est un texte visionnaire, paru en 1990, à un moment où, croyait-on, la mondialisation heureuse allait enfin faire converger les peuples et unifier l'humanité. Et Michel Serres était un penseur préoccupé par la violence que les hommes peuvent infliger à d'autres hommes. Il le disait, l'un des événements qu'il avait le plus marqué, c'était la bombe atomique larguée sur Hiroshima et puis sur Nagasaki. Et à la fin des années 80, il y a cette illusion que par le doux commerce, enfin l'humanité va se réconcilier avec elle-même. Mais là où Michel Serres est visionnaire, c'est qu'il comprend qu'il se fomente une autre guerre, c'est celle que l'humanité livre à la nature. Celle que l'humanité livre à la nature, non pas simplement dans une relation d'extraction, comme on parle d'extractivisme à propos du capitalisme fossile, mais la guerre que l'humanité livre à la nature de manière plus pernicieuse parce que l'humanité et la nature ne font plus qu'un. Et c'est pour ça qu'il dit qu'il y a quelque chose d'inédit en philosophie, c'est que la nature, qu'on appelle physis en grec, et qui est normalement ce qui s'auto-engendre en quelque sorte, hein, le monde naturel qui est à l'extérieur de nous, et la cité des hommes deviennent à ce point indistinctes, enchevêtrées, qu'une nouvelle réalité émerge, et en cela il préfigure la notion d'anthropocène qui fait aujourd'hui débat dans la communauté des géologues. Donc si on regarde avec 30 ou 35 ans de recul ce texte, on se dit que Michel Serres s'est probablement trompé sur un point, qui est que la mondialisation allait pacifier et faire converger l'humanité. On voit qu'aujourd'hui, plus que jamais, des nationalismes et des impérialismes féroces ressurgissent. On voit que le dissentiment est à l'œuvre dans les sociétés, avec les réseaux sociaux notamment. Mais il est un point sur lequel il avait profondément raison, qui est que l'indistinction entre la nature et l'humanité nous amène dans un nouveau régime climatique, qui est celui de l'anthropocène, et que c'est vraiment la texture du monde contemporain.
Alors, dans votre ouvrage, vous soulignez que la transformation écologique n'a pas commencé malgré les discours et les innovations. Et vous convoquez Machiavel. Il faut aller à la vérité effective des choses et donc à une révolution obligée. Il faut agir.
Alors là encore, il y aurait tellement à dire. On parle beaucoup de transition écologique dans les discours ces dernières années, quoique depuis quelques mois, je sens qu'il y a comme un reflux dans l'opinion publique sur ces questions. Et c'est malheureusement lié à l'actualité géopolitique brûlante. Quand vous avez des conflits au Moyen-Orient, en Ukraine, quand vous avez des préoccupations sociales pour le pouvoir d'achat qui sont parfaitement légitimes, et bien souvent, la question climatique est renvoyée au calende grec. On verra plus tard, c'est les générations futures qui sont concernées. Occupons-nous des problèmes ici et maintenant, si c'était aussi simple. Mais ce qui est certain, c'est que on en a beaucoup parlé ces dernières années, mais que quand on regarde les statistiques mondiales de la décarbonation, qui est quand même le cœur de la matrice, on voit que nous sommes toujours autant drogués aux énergies fossiles qu'il y a 40 ans. Jugez-en vous-même, la part de la consommation mondiale d'énergie primaire est à 82% des énergies fossiles aujourd'hui. Il y a 40 ans, c'était 82%. C'est-à-dire que la proportion n'a pas bougé d'un iota. Et je parle en valeur relative. Si je parlais en valeur absolue, c'est évident que compte tenu de l'accélération énergétique globale, eh bien, nous consommons aujourd'hui beaucoup plus de charbon, beaucoup plus de pétrole, beaucoup plus de gaz que nous n'en consommions il y a 40 ans. Nous avons donc un problème d'addiction et nous ne le voyons pas forcément, nous, Européens, parce qu'en Europe, c'est vrai que nous faisons des efforts. La France réduit ses émissions de gaz à effet de serre sur une trajectoire de l'ordre de 4 ou 5% par an. Mais certains pays comme l'Inde ou la Chine, avec des classes moyennes qui grossissent de plusieurs centaines de millions de personnes, ont des besoins énergétiques très importants, des besoins d'électrification très importants. Et cette électricité, aujourd'hui, elle est encore très largement produite grâce au charbon. De la même manière, la Chine est un énorme consommateur de pétrole. Et donc, nous ne sommes pas du tout sortis de l'ère fossile.
Il y a donc urgence et une révolution à mener.
Une véritable révolution au sens de révolution industrielle, c'est-à-dire une transformation en profondeur de nos manières de produire et de consommer. Révolution industrielle, pour un économiste, c'est quoi? C'est principalement trois choses. C'est d'abord un changement de système énergétique. Au 19e siècle, on est passé du bois, de l'eau, du vent, donc des énergies renouvelables ou de la biomasse, au charbon. En quelques années, le charbon est devenu l'énergie reine dans notre mix énergétique. Le pétrole n'est arrivé que beaucoup plus tard. Donc ça, ça a été la révolution énergétique. Deuxièmement, augmentation du niveau d'investissement. Quand vous construisez des chemins de fer et des gares partout en Angleterre ou en France, vous augmentez les capex, c'est-à-dire la puissance d'investissement. Et puis troisièmement, l'innovation. Eh bien aujourd'hui, nous avons le même problème. Il faut sortir des énergies fossiles, changement d'énergie. Il faut augmenter l'investissement parce que pour décarboner notre économie, ça va coûter des milliers de milliards d'euros. Et puis, il va y avoir des innovations. Regardez par exemple ce qu'on fait en termes de stockage d'électricité. On progresse très vite. La Chine notamment progresse très vite. Et donc, c'est bel et bien une révolution énergétique qui est à l'œuvre et industrielle.
Et il sera aussi question d'harmonie avec notre terre et notre environnement. Comment l'humain peut-il réintégrer sa juste place dans l'ordre naturel? Vous évoquez dans votre ouvrage la vie en société qui doit désormais être pensé en harmonie avec chacun de ces cycles bio-géophysiques, tous menacés de déséquilibre grave.
C'est toute la question. Vous voyez, Michel Serre, Bruno Latour ont été des penseurs de l'abolition de la séparation entre la société des hommes d'un côté et le régime des choses naturelles de l'autre. Nous faisons corps maintenant. Notre destin est en quelque sorte lié. Mais c'est quand même les êtres humains qui tiennent le gouvernail de la planète. C'est-à-dire que les dommages que nous infligeons à la planète, aux autres espèces animales et végétales, sont de notre fait. Et donc, ce qui est absolument nécessaire aujourd'hui, c'est d'inventer un contrat social qui soit aussi, pour reprendre les termes de Michel Serres, un contrat naturel, c'est-à-dire, au fond, qu'est-ce que c'est que le contrat social quand on regarde la philosophie solidariste de la fin du 19e siècle, que j'affectionne particulièrement? C'est l'idée de l'interdépendance. Nous vivons en société. Quand un enfant naît sur la terre de France, il bénéficie des savoirs, il bénéficie du niveau de richesse, il bénéficie de la sécurité sociale, du confort matériel qui a été acquis péniblement par les générations précédentes de citoyens français. Donc il a en quelque sorte une dette. Et il va rendre, en étant lui-même un citoyen qui exerce sa raison, qui contribue au contrat social et qui contribue à la production de la richesse dans le pays. Le contrat social et naturel dont il est question là, c'est d'élargir la focale et de considérer que nous ne sommes pas simplement des hommes et des femmes entre nous, qui vivent hors sol, détachés des choses naturelles, mais que nous faisons corps en quelque sorte avec les écosystèmes et que c'est un élargissement de la focale qui nous est demandé. C'est pas de changer pour aller simplement s'intéresser à la nature, c'est d'élargir la focale. Le contrat social, il est assis sur une infrastructure naturelle, matérielle, énergétique. Il est assis sur un socle biogéophysique qu'il faut désormais prendre en compte dans l'équation.
Alors, vous écrivez aussi dans votre ouvrage passionnant, la transformation écologique sera une gigantesque machine à redistribuer les cartes, les positions matérielles, mais aussi symboliques, entre les individus, les territoires ou les secteurs économiques vont être chamboulés. Un nouvel imaginaire de la solidarité semblerait à dessiner.
Oui, parce que la révolution industrielle au XIXe siècle, elle a bouleversé l'économie et la société. Il suffit de lire la grande transformation de Karl Polanyi pour le comprendre. Elle a créé des situations de grande pauvreté, elle a créé d'immenses fortunes, elle a rebattu les cartes. Elle a mis en avant certaines classes sociales. La bourgeoisie manufacturière a pris l'avantage décisif sur l'aristocratie foncière, par exemple. Et puis le prolétariat comme grande classe émergente, tellement bien analysée par Karl Marx. Donc vous voyez qu'une révolution énergétique et industrielle, c'est une grande machine à rebrasser les positions dans la société. C'est très exactement ce qui nous attend aujourd'hui. Et pourquoi on a inventé l'État-providence? Pourquoi on a inventé la sécurité sociale? Eh bien, pour créer un état de justice et pour, en quelque sorte, compenser les violences, les injustices, la précarité, l'indigence qui pouvait aussi résulter de cette révolution industrielle. À chaque révolution industrielle, en quelque sorte, son contrat social. Et si la révolution environnementale est bel et bien une révolution énergétique et industrielle, c'est un nouveau contrat social et naturel qu'il nous revient d'inventer. De nouvelles institutions de justice, de nouvelles solidarités. J'ai conscience qu'en vous disant ça, je reste très abstrait. Mais derrière, très concrètement, c'est qui on protège? C'est qu'est-ce que c'est que la démocratie dans ce contexte? Comment est-ce qu'on prend mieux en compte les générations futures? Comment est-ce qu'on retrouve le goût du temps long dans une société par ailleurs dévorée d'immédiateté avec les réseaux sociaux? Tout ça, ce sont des questions absolument fondamentales. Et malheureusement, quand je vois l'état du débat public aujourd'hui, nous ne sommes pas en capacité de nous poser sereinement ces questions. Alors si des espaces fraternels mettent ces questions à l'agenda, eh bien je ne peux que m'en réjouir.
C'est le cas, en effet, à la Grande Loge de France. Alors justement, rentrons peut-être un peu dans le concret. Vous le savez, les francs-maçons sont très sensibles aux outils. Quel levier politique, éducatif, pourriez-vous préconiser pour mobiliser les citoyens vers une société réconciliée, on l'évoquait, avec réconciliée avec le vivant?
Alors, il y a bien sûr l'éducation, la sensibilité au vivant, ce que j'appellerais aussi une écologie de l'attention, c'est-à-dire qu'on ne prête attention à la nature, au vivant, que si on apprend à prêter attention aux autres. Et vous voyez bien qu'avec l'essor de ces machines, les réseaux sociaux, les téléphones mobiles, on a de la destruction massive d'attention. Donc il y a un vrai combat de civilisation à mener pour une écologie de l'attention, pour une nouvelle économie cognitive. Ça, c'est fondamental. Ensuite, et c'est ce que nous disons avec Xavier Desjardins dans le livre, s'il n'y a pas un vrai contrat social, qu'est-ce que c'est un contrat social? C'est un équilibre entre différentes parties d'une population qui font société ensemble. Donc s'il n'y a pas une grande règle de partage, si on ne précise pas, parce que ça va coûter énormément d'argent, ça va demander énormément d'efforts, mais si on ne dit pas qu'on va répartir équitablement les efforts, et que ce n'est pas toujours les plus précaires qui vont trinquer ou qui vont payer l'addition la plus salée. Et que par ailleurs, parce qu'il y aura aussi des gains en termes de santé, en termes de contrat social, en termes de qualité de vie, en termes de santé mentale, il y aura des gains physiques, des gains évidents. Eh bien ces gains, il faut aussi les répartir de la manière la plus juste. Donc la question, ce n'est pas le principe de faire des efforts, c'est la répartition juste des efforts dans la société.
Alors nous avons une responsabilité, il ne faut pas profaner le monde. On se souvient tous du discours du président de la République Jacques Chirac en 2002 à la tribune de l'ONU. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. La Terre et l'humanité sont en péril et nous sommes tous responsables. Le monde est sacré, comme l'homme et la vie. Est-ce qu'il n'y a pas ainsi, au-delà d'une écologie politique, une écologie spirituelle?
C'est ce que je viens de dire en parlant d'écologie de l'attention. C'est une autre façon de présenter les choses. Bien sûr qu'il y a une dimension spirituelle. L'écologie, ça n'est pas que des chiffres, des statistiques de décarbonation, de l'innovation technologique ou des énergies renouvelables. C'est d'abord une façon de se tenir dans le monde. Cette phrase de Jacques Chirac est très belle. J'ai quand même une nuance, c'est qu'on ne peut pas regarder ailleurs quand la maison brûle, puisqu'on est dans la maison.
Et qu'il y a urgence. Je voudrais finir en revenant à la philosophie que vous avez beaucoup étudiée et à Michel Serres. Il écrit, je le cite, « L'adversité s'attaque maintenant non plus à notre corps seul, promis à la mort depuis l'aube des choses, mais à ce qui nous attache et nous relie tous universellement, notre terre et notre espèce, somme intégrale de nos cordes et alliances. » Alors les francs-maçons sont très sensibles à cette notion de nouvelle vie et cette alliance à un tout. Que nous disent ces liens et cette alliance? Comment pensez-vous que nous gagnerons cette bataille contre l'adversité qu'évoque Michel Serres?
Sans vouloir détourner un concept religieux, nous sommes à l'heure de l'alliance universelle, c'est-à-dire les hommes sont tous reliés les uns aux autres. encordés en quelque sorte par la technologie, par les réseaux sociaux, mais nous sommes aussi reliés au vivant et à la nature, et il faut que nous nous donnions les institutions qui nous permettent de faire vivre, prospérer cette alliance et d'éviter qu'elle ne se transforme en un champ de ruines fumantes.
Merci beaucoup David Jaïs pour ces propos éclairants. Je rappelle votre ouvrage « La révolution obligée » chez Alary Éditions. Alors nous avons évoqué l'écologie, notre planète, la Terre. Alors pour conclure, vous le savez, nous évoquons à chaque émission une loge de la Grande Loge de France. Aujourd'hui, nous souhaitions évidemment rendre hommage à la loge « La voûte d'Ilang » à l'Orient de Mamoudzou, capitale du département de Mayotte. Une terre meurtrie par la tempête et les éléments, une terre qui a besoin de nous tous. Notre grand maître, Thierry Zaveroni, s'est rendu sur place auprès des Mahorais et un élan de solidarité s'est manifesté notamment par l'intermédiaire du fonds de soutien de la Grande Loge de France Fraternité et Humanisme. Soutenons tous les habitants de Mayotte. Et puis nous sommes le 19 janvier, il y a 50 ans, quasi jour pour jour, en janvier 1975, l'Assemblée nationale votait la loi relative à l'interruption volontaire de grossesse, la loi portée par Simone Veil. Un homme, Pierre Simon, avait ardemment œuvré pour cette loi. Médecin, humaniste, engagé, il était franc-maçon de la Grande Loge de France et grand maître de notre obédience à plusieurs reprises. Nous avons une pensée pour lui, sa famille et notamment sa fille, Perrine Simon-Naoum. Pierre Simon sera toujours un exemple pour nous tous. Dans les actualités de la Grande Loge de France, dans le cadre du cycle de conférences Enjeux et Perspectives, une conférence le 23 janvier à Paris sur le thème « Croire en liberté, être frère ». Une conférence passionnante avec le frère Benoît Dubigeon, prêtre franciscain, prédicateur et aumônier à la prison de Fleury-Mérogis, avec le pasteur Jean-Marie de Bourquenay, théologien, ancien directeur de la publication de Réforme, Alain-Noël Dubard, ancien grand maître de la Grande Loge de France, le rabbin Yann Boissière, de Judaïsme en mouvement, théologien et président des Voix de la Paix, et Monsieur Abdennour Bidar, philosophe et essayiste, méditant engagé pour un islam d'aujourd'hui, le 23 janvier, à la Grande Loge de France à Paris. Et vous pouvez retrouver toutes les actualités de la Grande Loge de France sur notre site gldf.org. C'était les divers aspects de la pensée contemporaine de la Grande Loge de France, une émission préparée et présentée par Clément Ledoux. Aujourd'hui, à la technique, Anthony Thomasson et Paul Guigues, à la réalisation, Jean-Christophe Francis, et à la préparation, Claire Poinsignon. Très bon dimanche à tous.